Un journal présenté ce soir par Annabelle Grelier. Bonsoir Annabelle.
Bonsoir Emmanuel, bonsoir à toutes et à tous. Emmanuel Macron s'adresse en ce moment même aux jeunes dans une interview en direct sur Brut, un média 100% vidéo diffusé sur les réseaux sociaux, largement interrogé sur les violences policières. Emmanuel Macron annonce la création d'une plateforme nationale de signalement sur les discriminations raciales en France. De nouvelles marches des libertés et des justices sont prévues ce samedi. 80 rassemblements sont prévus à travers toute la France contre les articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi sécurité globale. Ces manifestations se tiendront souvent en convergence avec les actions menées dans le cadre de la journée contre le chômage et la précarité. Et la loi Schiappa sur les violences sexistes et sexuelles pourrait être amendée. Les conclusions d'évaluation ont été remises ce matin au gouvernement. Elles proposent un interdit par principe des relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Le Brexit, les négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour être dans les temps devraient se terminer ce week-end. C'est loin d'être gagné, quoi qu'il arrive. Les Britanniques, qui ont officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier, cesseront d'appliquer les normes européennes au 31 décembre. C'est un ovni dans le monde des médias. Brut diffuse des vidéos sous-titrées dans une centaine de pays dans le monde et obtient un succès d'audience en France, notamment auprès des jeunes. Brut recevait cet après-midi le président Macron, c'est toujours d'ailleurs en cours, un échange direct qui était très attendu. Le chef de l'État a été interviewé par Rémi Buisine, le journaliste récemment mis à terre par des policiers lors de l'évacuation brutale de migrants à Paris. Antoine Marette, vous avez suivi cet échange.
Ça n'est pas la première fois qu'Emmanuel Macron s'exprime dans un nouveau média. Il l'avait déjà fait sur la chaîne YouTube d'Hugo Travers, mais cette fois-ci, le chef de l'État doit affronter des questions directes, parfois polémiques, notamment celle de Rémi Buisine.
Je vais vous raconter ce que j'ai vécu. C'était il y a 10 jours. J'étais place de la République à Paris pour Brut. Et ce que j'ai vu pendant toute cette soirée, ce sont des migrants pourchassés, molestés, sortis de leur tente. C'était violent. Moi-même, j'ai été frappé par un policier. De tels comportements de la police en France en 2020, est-ce que c'est normal, monsieur le Président ?
Non, c'est jamais normal d'avoir des comportements qui sont pas à la hauteur des attentes qu'on a. Après, est-ce qu'il fallait, à la place de la République, faire enlever les tentes ? Oui, parce que ça n'est pas normal qu'il y ait des tentes dans les rues en France.
Parce que derrière, il y a aussi ces images de violence. Il y a
une façon je vais y venir tout de suite sur les violences. Mais est-ce qu'il fallait enlever les tentes ? Oui.
Régulièrement, les journalistes interrompent le chef de l'État qui garde son calme. Les sujets traités sont en majorité sociétaux, les violences policières, l'article 24, le racisme, le terrorisme.
Je ne peux pas laisser dire qu'on réduit les libertés dans notre pays. Et je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de débat démocratique, parfois un peu vibrant. En tout cas, moi j'en serai toujours le garant. Mais nous sommes aujourd'hui face à des violences qui sont parfois inédites, face à des risques nouveaux, on l'a eu à le vivre pour le terrorisme. Et il faut construire dans le cadre de nos libertés, de notre droit, les moyens d'y répondre.
Emmanuel Macron descend dans l'arène au risque de désacraliser la parole présidentielle. Mais le chef de l'État se révèle très à l'aise dans cet exercice. Un chef de l'État ou plutôt sans doute un futur candidat.
De nouvelles marches des libertés et des justices sont prévues ce samedi. 80 rassemblements sont prévus à travers toute la France contre les articles 21, 22 et 24 de la proposition de loi de sécurité globale. Certaines manifestations ont d'ores et déjà été interdites par les préfectures. C'est le cas à Montpellier ou à Rennes. Les organisateurs n'ont pas pour autant annulé. Ces manifestations se tiendront souvent en convergence avec les actions menées dans le cadre de la journée contre le chômage et la précarité, Laura Dulieu.
Ne pas relâcher la pression, c'est le mot d'ordre pour cette nouvelle journée de mobilisation, avec cette fois un cortège qui devrait être encore plus diversifié et une intersyndicale menée par la CGT qui appelle à marcher pour les droits sociaux et les libertés, ce qui élargit donc l'appel du collectif contre la loi Sécurité Globale. Pour Pierre-Édouard Magnan, président du mouvement national des chômeurs et des précaires, cette union des combats est inévitable.
Rassembler les combats, c'est aussi rassembler les forces. Ensuite, au-delà de la crise liée à la pandémie, les attaques contre les chômeurs et les précaires, notamment pour ce qui nous concerne, continuent et continuent de la part d'un gouvernement qui fondamentalement ne change pas de politique. Par ailleurs, cette pandémie a un effet, je le disais tout à l'heure, absolument épouvantable sur toute démarche collective. Or, nous, on est convaincus que les chômeurs et les précaires, c'est notre mission, elle est dure, hein, mais c'est notre mission, doivent se regrouper, se mobiliser collectivement pour gagner des droits et empêcher qu'on leur en supprime. La loi de sécurité globale, on est quand même dans une démarche de contrôle et d'empêchement de l'action collective.
L'heure est donc bien à la convergence, en tout cas pour demain. En plus des représentants de journalistes ou la Ligue des droits de l'homme à l'origine de l'appel à marcher contre la loi sécurité globale, il y aura l'intersyndicale avec les organisations de jeunesse, la CGT, FSU et Solidaires. Il devrait aussi y avoir quelques gilets jaunes habitués des manifestations le samedi. En plus du retrait de la proposition de loi sécurité globale, les syndicats réclament aussi celui de la réforme de l'assurance chômage.
À Paris, la manifestation partira donc de la Porte des Lilas à 14h, direction Place de la République. Et la loi sur les violences sexistes et sexuelles, la loi Schiappa, pourrait être quelque peu amendée. La députée LRM des Bouches-du-Rhône, Alexandra Louis, a remis ce matin au gouvernement les conclusions de sa mission d'évaluation. La loi a été votée en 2018, récemment donc, mais après la parution du livre de Vanessa Spingora, Le Consentement. Vous vous souvenez, ce témoignage fort qui décrivait les relations sexuelles de l'auteur avec l'écrivain Gabriel Masneff, alors qu'elle n'avait que 14 ans et lui 50, la nécessité est apparue d'aller plus loin pour protéger les mineurs. Plus de 170 personnes ont été auditionnées pendant 6 mois. La députée propose de poser un interdit par principe des relations sexuelles entre un adulte et un mineur de moins de 15 ans. Les explications d'Anne Fauquemberg.
Alexandra Louis avait été la rapporteure LREM de la loi Schiappa en 2018 et aux côtés du garde des Sceaux ce matin, elle reconnaît.
Je suis persuadée d'une chose, c'est qu'en 2018, nous sommes allés aussi loin que nous pouvions aller, ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas aller plus loin.
Mais comment aller plus loin que l'article 2 de la loi actuelle qui avait beaucoup déçu à l'époque les associations? Marlène Schiappa avait abandonné au dernier moment la création d'un seuil d'âge de non-consentement pour les mineurs de moins de 15 ans. Pour Pascal Cussig, le porte-parole d'un collectif de 33 associations de protection de l'enfance, la France serait donc désormais sur le bon chemin, mais il reste prudent.
Le rapport semble dire que l'idée de poser un âge de non-consentement à 15 ans est une bonne idée, mais par contre, Alexandra Louis ne va pas jusqu'à proposer un texte. Elle se contente de dire que l'idée est a priori bonne, que contrairement à ce qu'on nous a dit, ce n'est pas une atteinte à la présomption d'innocence.
La traduction en droit risque de prendre un peu de temps. La députée a exclu la création d'une présomption irréfragable, c'est-à-dire non contestable, de contrainte et de surprise pour les rapports sexuels entre majeurs et mineurs de moins de 15 ans. Cela pose des problèmes de droits fondamentaux et pour la défense, elle préconise plutôt de rédiger un article à part sur ce sujet dans le code pénal.
Anne Fauquemberg. Pendant le premier confinement, l'État a assoupli les règles des marchés publics pour permettre aux collectivités de se fournir plus vite et plus facilement. Mais en desserrant la vis, il a aussi permis des dérives et certaines collectivités ont dépensé sans compter pour des produits parfois assez douteux. Bonsoir Élodie Guéguin.
Bonsoir Annabelle.
Alors pendant plusieurs mois, avec Sylvain Tronchet, vous avez scruté les achats des collectivités locales et décortiqué des centaines de factures.
Oui, alors il faut d'abord se replacer dans le contexte du mois d'avril. Le déconfinement approche et les élus, comme le maire de Marseille à l'époque, Jean-Claude Gaudin, promettent des masques pour tout le monde.
La ville de Marseille met en place, à ma demande, la distribution de plus de 1,5 million de masques grand public.
Alors si nous avons choisi de vous parler de Marseille, c'est parce que c'est là-bas que nous avons trouvé le masque le plus cher de France vendu à une collectivité. La ville en a commandé 250 000 à 5,50 euros l'unité hors taxe. Pour vous donner une idée, même le masque haut de gamme fait en France et porté par Emmanuel Macron a été vendu moins cher. Le masque acheté par la ville de Marseille, lui, a été commercialisé par une entreprise locale, Homme. Alors, comment expliquer que ce fabricant ait facturé des masques à ce prix-là? Nous avons posé la question à l'un de ses dirigeants, un échange informel que nous avons reconstitué.
Sur la fabrication des masques, est-ce que c'était une fabrication Union européenne ou pas?
Oui.
Oui? Dans quel pays sont fabriqués vos masques?
En Bosnie.
En Bosnie?
Dans une usine qui a toutes les certifications diverses et variées par rapport à la qualité.
D'accord, parce que nous, on n'a pas trouvé de masque plus onéreux que le vôtre, en fait. C'est vraiment, d'après ce qu'on a vu, le masque le plus cher de France, quoi, le masque homme.
Le tissu devait être homologué par la Direction Générale de l'Armement. Si vous comparez des masques qui sont faits avec des tissus d'un t-shirt lambda ou des tissus homologués par la DGA, ce n'est pas la même chose.
Alors, la Bosnie n'est pas un pays de l'Union européenne et les ouvriers du textile y sont très mal payés. Quant à la certification de la DGA, des dizaines de modèles l'ont reçue et il ne valait pas pour autant plus de 2 ou 3 euros. Je précise quand même que la ville de Marseille avait accepté de verser dès la commande un acompte d'1,3 million à cette société locale qui rencontrait des difficultés financières. Elle est d'ailleurs aujourd'hui, Annabelle, en redressement judiciaire.
Et comment est-ce possible ?
Eh bien, c'est possible parce que durant cette période, les collectivités n'étaient pas obligées de passer des appels d'offres. Résultat, elles se sont tournées vers des entreprises qu'elles connaissaient déjà, ce qui peut engendrer des dérives, explique Kevin Gernier de l'ONG Transparency International.
Quand le pouvoir politique peut se passer de la mise à concurrence, de l'appel d'offres préalable, il est toujours tenté de favoriser les entreprises du coin, parce qu'on les connaît, parce qu'on veut créer de l'emploi local. Ça peut se comprendre, mais derrière ça, il y a aussi des risques, malheureusement, de clientélisme. Et ensuite, ça peut aussi bloquer l'accès à la commande publique pour beaucoup d'entreprises qui ne sont pas du territoire et qui donc vont se retrouver encore plus dépendantes du pouvoir politique de leur territoire. Derrière ça, il y a vraiment des risques de corruption systémique qui peuvent s'installer quand il y a une trop grande dépendance entre le milieu économique et politique.
Eh bien, c'est l'enjeu politique qui a poussé des collectivités à acheter dans l'urgence. Elles voulaient montrer qu'elles pouvaient protéger la population là où l'État était défaillant, et ce, à n'importe quel prix. Écoutez ce que nous a raconté Eric, l'un des fournisseurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Je voyais arriver des gens qui vendaient de la surblouse à 12 euros pièce, et on m'a demandé de les commander à ce prix-là pour pouvoir leur revendre à la région. J'ai carrément refusé. J'ai dit non, c'est pas possible, on peut pas faire ça. On peut pas faire ça avec l'argent public et avec l'argent de nos impôts. Donc si vous voulez des surblouses, j'avais bien dit à l'époque à la région, je vous en vends, c'est sûr, mais pas à ce prix-là. Laissez-moi une semaine, puis je vais vous en trouver des surblouses, et puis je leur ai trouvé des surblouses à 2 euros à l'époque. Je voyais très bien que j'avais pas affaire à des professionnels, à des gens qui étaient vraiment dédiés à acheter du matériel de protection de l'homme au travail. C'est-à-dire que ce sont des acheteurs qui étaient là au combat et qu'il fallait qu'ils approvisionnent à tout prix du matériel.
Autre exemple, en Occitanie, la région a accepté de verser un acompte d'1,000,000 d'euros à un intermédiaire monégasque pour obtenir des masques chinois. Eh bien, si la collectivité avait regardé d'un peu plus près, elle se serait aperçue que le nom de cet homme apparaissait dans le scandale d'évasion fiscale des Panama Papers.
Covid-19, les dérives des marchés publics, une enquête à retrouver sur franceculture.fr. Et après les masques, les tests. Laurent Vauquier lance dans sa région Auvergne-Rhône-Alpes, 8 millions d'habitants, une campagne de tests massifs, gratuits, rapides, un test antigénique que tous les habitants sont appelés à faire. Oui, mais voilà, pour le maire de la grosse ville de la région Lyon et son voisin de Villeurbanne, cette débauche de moyens est inutile alors que la propagation diminue, qu'il n'y a plus de problème pour se faire tester dans l'agglomération lyonnaise. À Lyon, Mathilde Inverti.
C'est ce qu'on appelle un testing de masse, un déploiement massif de tests sur base volontaire pour un maximum d'habitants possible. 1000 centres seraient ouverts en plus de ceux existants, a précisé le président de la région, Laurent Vauquier.
Cette campagne de tests, elle doit être déployée partout, aussi bien pour l'habitant de Lyon sur la place Bellecour que l'habitant du Haut-Plateau Ardéchois. Dans notre région, vous savez que j'aime bien qu'on soit plutôt un peu devant. Sur les campagnes de tests massifs, vous avez vu qu'il y a 3 semaines, quand on l'a lancé, le ministre de la Santé avait exprimé des réserves. Depuis, le gouvernement a décidé de l'expérimenter dans 3 villes. Et évidemment qu'on a intérêt à avoir une première action avant les fêtes de Noël et puis ensuite après les fêtes. Pourquoi choisir entre les deux ?
Réponse au maire écologiste de Lyon qui estimait plus judicieux d'investir sur une campagne massive en janvier, sachant qu'actuellement la propagation diminue. Quant à l'objectif affiché par Laurent Vauquier de sécuriser les fêtes grâce à cette campagne, il est réalisable dans une certaine mesure. Il s'agit de simples tests antigéniques, précise le virologue Bruno Lina. Il pilote le comité scientifique encadrant cette campagne.
Quand on fait cette campagne et qu'on la fait dans un certain nombre d'endroits, il ne s'agit pas de donner un passeport biologique pour dire vous êtes négatif, donc c'est pas la peine d'utiliser les mesures barrières, les mesures d'hygiène. Non. C'est pas forcément utile dans un domaine purement épidémiologique de maîtrise de la circulation du virus. Ça peut donner un instantané à un moment donné du niveau de circulation du virus, mais ça n'a de sens finalement que à partir du moment où, une fois qu'on aura ce premier niveau fait avant Noël, on aura un deuxième niveau fait après Noël, et on pourra faire un comparatif.
Pour le scientifique, les efforts produits par l'une ou l'autre des collectivités ne s'opposent pas. Lyon et Villeurbanne s'agacèlent d'une initiative prise en solo par le président de la région, candidat à sa réélection.
Se faire dépister avant Noël, l'Autriche a commencé également aujourd'hui une campagne nationale de dépistage du coronavirus, espérant ainsi ralentir la propagation du virus dans le pays. Basée sur le volontariat, cette campagne invite les habitants à effectuer un test antigénique avant les fêtes, histoire de ne pas ramener le virus comme cadeau. À Vienne, la campagne a commencé ce matin. Reportage dans la capitale autrichienne de notre correspondante Isorias.
Au sein de la Stadthalle, 40 points de test ont été installés devant lesquels les Viennois qui se sont préalablement inscrits patientent par petits groupes. Ils sont nombreux à avoir choisi de participer à cette campagne de tests antigéniques rapides et gratuits.
Ma copine vit dans le Tyrol où elle travaille dans un hôpital. Elle vient me voir ce week-end. Je suis donc rassuré de savoir que je suis négatif.
Cette campagne est ouverte à tous et je pense que tout le monde devrait y participer. C'est important d'avoir une vue d'ensemble et de savoir combien de personnes sont réellement infectées.
Mais certains experts pointent les limites d'une telle campagne, notamment car les tests antigéniques ne sont pas fiables à 100%, explique Thomas Zekeres, président de l'Ordre des médecins autrichiens.
Il peut y avoir des résultats faussement négatifs lorsque quelqu'un est infecté depuis peu. Le test peut en effet devenir positif quelques heures ou quelques jours plus tard, car la quantité de virus aura augmenté dans la muqueuse. Il ne faut donc en aucun cas se croire en sécurité après un résultat négatif.
Les experts recommandent donc de répéter régulièrement ces tests, mais cela est compliqué d'un point de vue logistique, plaide le gouvernement, qui a prévu que la population soit testée une deuxième fois début janvier, mais pas davantage à ce stade.
Erdogan et Macron, ces deux-là ne passeront pas le réveillon ensemble, c'est sûr. Plus sérieusement, Emmanuel Macron a été une nouvelle fois pris pour cible par Erdogan. Le président turc a souhaité aujourd'hui que la France se débarrasse dès que possible du problème Macron, qu'il a qualifié de fardeau pour son pays. Erdogan vise Emmanuel Macron car il le gêne sur de nombreux dossiers. Erdogan ne fait rien donc pour apaiser les relations entre nos deux pays. À ce niveau-là, c'est même presque de la provocation, alors que les dirigeants européens doivent se réunir les 10 et 11 décembre pour débattre du cas turc. À Istanbul, les explications d'Anne Andlauer.
À quelques jours d'un sommet européen qui pourrait accoucher de sanctions économiques contre la Turquie, son président continue donc d'attiser les tensions avec l'un des principaux défenseurs d'une ligne dure face à Ankara, le chef de l'État français Emmanuel Macron. Il y a quelques semaines, Recep Tayyip Erdogan mettait en doute sa santé mentale, il l'accusait de mener une campagne de haine contre les musulmans en Europe et appelait ses concitoyens au boycott des produits français. Aujourd'hui, il espère à voix haute le départ de son homologue. En septembre, Emmanuel Macron avait affirmé que le peuple turc méritait autre chose en référence aux actions de son gouvernement. Mais Recep Tayyip Erdogan avait interprété ses propos comme un appel au soulèvement des Turcs contre leur président. Les relations entre la Turquie et la France se sont progressivement dégradées depuis l'année dernière en raison de désaccords sur la Syrie, la Libye, la Méditerranée orientale et plus récemment le conflit entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie dans le Haut-Karabakh. Recep Tayyip Erdogan a d'ailleurs estimé que la France, qui copréside le groupe de Minsk chargé de favoriser un règlement à ce conflit, avait perdu son rôle de médiateur. En cause, le vote au Sénat et à l'Assemblée nationale française de résolutions favorables à une reconnaissance du Haut-Karabakh.
Et où en est-on du Brexit ? Londres et Bruxelles touchent aux limites des concessions pour trouver un accord ce vendredi. Les Européens aimeraient parvenir à un accord avant la fin du week-end, condition pour qu'il soit ratifié à temps par le Parlement européen afin d'entrer en vigueur le 31 décembre. À cette date, les Britanniques qui ont officiellement quitté l'Union européenne le 31 janvier dernier cesseront d'appliquer les normes européennes. Le négociateur européen Michel Barnier est à Londres depuis le début de la semaine. Il vient de renoncer à venir faire le point à Bruxelles avec les ambassadeurs des 27 gouvernements. Pierre Benazé, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, y a-t-il un risque que l'Union européenne ne parle plus d'une seule voix sur cet accord de Brexit ?
En tout cas, ce que ni Theresa May ni Boris Johnson n'ont réussi à faire depuis 4 ans que le non l'a emporté au référendum, c'est-à-dire enfoncer un coin entre les Européens, le temps semble avoir réussi à le faire. L'approche de date fatidique fait apparaître quelques fissures. D'un côté, Français, Danois, Belges, Néerlandais qui n'entendent rien lâcher, en particulier sur la pêche. Boris Johnson en a fait un dossier symbolique et ils adoptent une attitude similaire. D'autres, comme la Commission européenne ou l'Allemagne, qui exerce la présidence tournante de l'Union, seraient prêtes à plus de souplesse pour arracher un accord. La France n'est pas prête à octroyer un accord post-Brexit à n'importe quelle condition, disait le Premier ministre hier à Boulogne-sur-Mer, après des rumeurs de concessions sur la pêche. Du coup, pour Downing Street, la perspective d'un accord s'est éloignée par la faute de la France, qui est un peu, il faut bien le dire, un bouc émissaire idéal pour les conservateurs britanniques. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, a enfoncé le clou en soulignant que la France, comme tous les autres, a tout loisir d'utiliser son veto. Le dire ouvertement vaut mieux pour ne plus être accusé par Londres de chercher à torpiller en douce un accord possible. Le dire ouvertement vaut mieux pour pouvoir ensuite expliquer aux pêcheurs que les concessions qui leur auraient été défavorables ont pu être évitées. Du coup, le président du Conseil européen, Charles Michel, appelle à l'unité européenne. Le ministre irlandais des Affaires étrangères demande à tous de garder leur sang-froid. Et Berlin affirme finalement ne pas être prêt à accepter un accord à n'importe quel prix. Colmater les brèches, présenter un front uni, c'est vital pour les Européens parce que le Royaume-Uni ne doit pouvoir s'en prendre qu'à lui-même pour son choix du Brexit.
Pierre Benazé à Bruxelles, merci. Quelques mots de météo, un temps instable demain, pluie, nuages, les températures 4 à 12 degrés maximum. Et puis voilà, si vous ne parlez pas le turc couramment, vous aurez remarqué que nous n'avions pas tout à fait la traduction d'Erdogan dans notre reportage, mais nous en avons fait un bon résumé sur les noms d'oiseaux qui s'échangent entre Erdogan et Macron en ce moment. 18h.